bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec, on va continuer, Leïla Kamerounani, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Albert Algou, Guillermo Guise, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité, l'excellente Virginie Efira. Bonjour Virginie, merci.
Bonjour.
Merci de trouver le temps de venir nous parler de cette femme, Sibylle, qui est à la fois le titre du film et le personnage principal que vous incarnez. Et tout cela 48 heures pratiquement avant les marches du palais des festivals.
Exactement, les escaliers rouges.
Dans quel état êtes-vous?
Vous avez en fait, j'arrête de... pas de dire, oh oui, non, tout va très bien, franchement.
Bon, mais écoute, franchement.
Voilà, on relativise. Mais là, quand même, comme ça fait deux nuits que je me tape des insomnies, je me dis que probablement ça doit créer quelque
signe.
Chose.
Ah.
Oui, il y a un signe.
Ouais, en tout cas, ça se voit pas, vous portez très bien les insomnies.
Merci.
Physiquement, physiquement on s'en rend pas compte.
Mais je
et là, tu tombes, et là, tu tombes dans les marches. Il ouais. Oui. Y a quand même une vingtaine de marches à grimper. En tout cas, le buzz, je sais pas si vous avez lu ou si vous intéressez à la presse écrite, en tout cas, le buzz autour du film est extrêmement bon.
Ah, moi je dis tout, moi.
Ah, bah très bien, voilà. Et c'est
d'autant
plus.
Bon, mauvais.
Et c'est d'autant plus normal que c'est justifié.
Ouais.
On l'a vu et on a adoré. Et vous êtes absolument formidable aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Neil Schneider, Paul Ami, Arthur Harari, Laure Calamy, qui est une frangine, qui est une horreur, qui est une manipulatrice, mais qui est dingue, tellement elle joue bien aussi. Sandra Hüller, comédienne franco-allemande,
ouais,
qui joue d'ailleurs le rôle d'une réalisatrice au sein du film. On va parler. De ce film, en un mot, c'est l'histoire d'une écrivaine.
Résumer ce film en un mot, vas-y, bon courage.
Ok, c'est l'histoire. D'une écrivaine qui devient psychanalyste puisque elle-même a suivi aussi une thérapie.
Ouais.
Une analyse, merci. Elle décide de laisser tomber la psychanalyse pour redevenir écrivaine. Elle accepte au dernier moment une patiente jouée par Adèle Exarchopoulos, qui est une actrice, qui vient lui parler. Et là, elle va s'identifier, vampiriser l'histoire de cette fille en faisant ce qui est totalement illégal,
enregistrer
ce qu'elle raconte pour s'inspirer pour son roman.
Ouais, exactement.
C'est le point de départ.
C'est un bon. Ouais, c'est
pas
ça.
Tout le
après
film,
moult choses encore, mais c'est
ouais.
Un très
ouais,
bon
ça,
ouais, point
Il y a
de départ.
Beaucoup de choses parce qu'il est justement très riche et très dense ce film. On va prendre le temps d'en parler. Mais d'abord,
quoi
des questions, figure-toi, concernant Virginie Efira.
Allez.
Qu'a officiellement demandé Virginie il y a deux ans. C'est officiel.
De l'argent.
Nationalité.
La Légion d'honneur.
De quoi?
Nationalité.
Exactement.
Oui, monsieur, la Légion d'honneur. Je ne l'ai pas reçu. Je peux vous dire que.
C'est un scandale.
C'est un scandale, exactement.
Ça va pas tarder sans formulaire online
c'est
pour
quoi,
la Légion d'honneur.
Vous avez demandé à être française.
Ah oui, oui, oui.
Parce que.
Ce grand silence de stupéfaction.
Mais non, mais c'est
mais
ça.
Bon, c'est pourquoi? D'abord parce qu'on peut avoir la nationalité française en gardant sa nationalité belge. Hein,
d'accord.
Et parce que je travaille en France, je paye mes impôts en France et je veux voter en France. Enfin, c'est une chose un peu basique, quoi.
Est-ce que c'est pour le vote, justement? Est-ce que c'est pour vivre?
Non, c'est pour avantage fiscal. Je peux vous dire.
c'est l'inverse, normalement.
Ouais.
Elle est difficile à obtenir la nationalité française dans votre cas? J'imagine que c'est plus simple.
Mais non, pas du tout.
Ah ouais?
Pas du tout, du tout.
De côté, je suis une personnalité.
Rien à secouer. Mais
ah
bon. Rien à secouer, et heureusement d'ailleurs.
Oui.
Non, ça m'a plutôt. Je trouvais ça assez juste en tout cas. J'étais un peu surprise quand j'ai reçu un papier où je devais prouver que je parlais bien le français. Et tout. Je me suis dit,
c'est là
quand même,
c'est
j'ai
là
pas
insisté.
On peut leur envoyer un DVD, un truc. Voilà, mais il fallait que je retrouve mes trucs d'école et tout.
Guillermo a connu ça.
Toi, tu restes belge.
C'est pour ça que tu l'as pas.
Rends-moi un service, reste belge, ok?
Mais moi, je suis toujours belge.
Bien.
Je suis toujours belge.
En plus,
j'ai deux. Oui, oui, oui.
Voilà. Donc,
c'est ça, il faut prouver. Mais ça prend quand même du temps et après, il faut aller voir quelqu'un. Et puis après, il faut aussi expliquer pourquoi. Bon, alors, quand j'ai dit que c'était pour voter, du coup, ça s'est transformé en Trivial Poursuite ou en Question pour un champion. Ok, très bien. Et en quelle année les femmes ont eu le droit de vote en France?
Ah bon?
45.
44, mais elles ont voté
en 45.
C'est ça. Donc, moi, je me suis plantée quand elle m'a posé la question. Voilà, j'ai eu ça. J'ai pas dit la bonne date et tout. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que j'aimais en France et j'ai dû commencer à vanter la beauté de la Drôme et de la
non,
région
c'est
PACA.
Une blague. C'est
non,
une blague.
Non, c'est pas une blague.
Oh, on te demande ce que tu aimes en France.
Mais je te jure, okay. Moi, pour que je me mette à dire oh, la Dordogne formidable et tout le machin, enfin, je faisais une sorte de carte postale.
Et c'est ridicule parce que, en fait, en quoi ça prouve qu'on devrait avoir accès à la nationalité française que de parler du territoire? Enfin, je trouve ça complètement fou.
Oh, je pense qu'il voulait peut-être avoir juste une petite discussion.
Oui, mais alors, il a
fait un selfie à la fin.
Non,
ou pas, le mec,
mais c'est une manière aussi peut-être quand même de... Non, pas du tout, mais c'est peut-être une manière de rencontrer, de voir qui. On peut aussi voir ça comme porter un intérêt aussi.
Il faut
pas
aimer
après...
la France pour être français. C'est ça.
Ah, est-ce qu'il faut aimer la France? Et qu'est-ce que c'est que déjà aimer la France? Mais ça m'a pas semblé être quelque chose en disant mauvais point.
Ça veut dire que lorsqu'il y a un match France-Belgique en Coupe du Monde, il faut soutenir la France et être content que la France ait gagné.
Peut-être pas.
Question suivante.
Mais c'est intéressant.
On a perdu Guillermo.
Je me retire de ce pays. Tout de suite. Immédiatement.
Virginie, à part les nuits blanches, prend chaque matin un gros petit déjeuner avec des œufs et quoi d'autre?
Du fromage.
Non.
Passionnant cette émission.
Ouais. Attends, elle est pas finie. Hein.
Ça ne fait que commencer.
C'est un truc étonnant.
Ouais,
donc,
c'est un truc étonnant. C'est un truc que tu prends pas au petit déjeuner normalement.
Choucroute.
Pas loin.
Saucisse.
Pas loin.
Flamingue.
Bœuf en daube.
Non.
C'était caché.
Non, des œufs et. Oh, jamais vous avez trouvé.
Du camembert?
Non.
Des haribots?
Un steak?
Non.
Qu'est-ce qu'on. Du rouge?
Non, elle aime.
Des lentilles?
Elle aime le salé.
De la chair d'enfant?
Ah, pas loin.
Elle a mangé?
Non. Alors, pas loin.
Du bacon?
Des ransorts.
On est avec du poisson. On est dans le poisson.
Oui, du poisson.
Hareng fumé?
Non.
Crevettes?
Des sardines?
Saumon?
Non.
Elle a dit.
Des anchois?
Ouais, j'ai dit.
Non, elle a dit saumon.
Elle a dit
avant?
Elle a dit crevettes?
Oui.
Ouais, tu l'as dit crevette, tu dis crevette.
Ah, moi j'avais ton.
Mais vous parlez mieux aux invités.
Ça, c'est lundi crevette, mardi ton, mercredi remops.
Sauvé.
Jeudi, ah oui, il y a tout le.
Petit déjeuner avec des œufs.
Jeudi calamar.
Et des rillettes.
Ah, des remops dans le café.
Ah, c'est vrai, rillettes de thon aussi, oui. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi bizarre. Oui, c'est bizarre.
Je pense que c'est bizarre, ouais.
Non, mais. Pas tellement foufou, non.
Que ce soit le repas le plus important à prendre le matin, on est totalement d'accord. Le salé, on est totalement d'accord. Des œufs et des rillettes de thon, je suis pas sûr de la légèreté digestive.
Si non, mon corps supporte bien des choses. Voilà.
voilà.
Du dentifrice et la rillette de thon, oui, on comprend, mais les manger après.
Qu'a gardé Virginie Fira de son enfance?
Son doudou.
L'innocence.
Son
exactement.
Doudou.
Vous l'avez toujours, ce doudou.
Ouais.
Il s'appelle Guillermo, elle est bien avec.
Est-ce que vous le gardez au point de dormir encore avec ou vous l'avez?
Non. D'abord, si ça c'est le cas, je pense que je le cacherai quand même publiquement. du coup. Enfin, on peut pas jeter cette chose, même s'il lui reste qu'une oreille et tout ça.
Est-ce qu'il a la même odeur? Parce que c'est ce qui est important dans un doudou, c'est que pour tout le monde, il pue, mais pour celui qui en est le propriétaire, c'est le truc le plus génial du monde.
Oui, c'est vrai. Mais non, je crois que là, quand même, comme il m'asserre pas non plus. Dans mes fluides, si je peux me permettre. Enfin, je veux dire.
Ouais. C'est chelou. On va garder cette phrase, on va l'isoler.
Ne m'assert pas dans mes.
Cette émission est très bizarre.
Non, mais je veux dire, il est pas, je dors pas avec. Le doudou de ma fille, par exemple, que j'adore sentir, et pourtant, je crois que vous, ça ne vous plairait pas.
Voilà.
Il est dans sa bouche, il sort. Voilà,
c'est
je veux
ça.
Dire, c'est ça, ma
sœur,
dans
les fluides que je veux dire. Transpiration, voilà. De la nuit.
Oui.
Exactement. Adolescente, Virginie Efira tenait un petit journal où elle écrivait, mais elle écrivait quoi?
Des choses sur les gens?
Non.
Des critiques
des
de
nouvelles,
films?
Des nouvelles,
ah oui.
Des
poèmes.
Des critiques de films. C'est-à-dire, est-ce que vous recopiez des critiques de films ou est-ce que vous jouiez à la critique de cinéma?
Ah non, je joue à la critique de cinéma, avec des étoiles, tout le machin.
Carrément, vous notiez?
Oui, bien sûr. Moi, je notais, je sais pas pourquoi.
De films vus à la télé ou de films...
Je prenais un énorme plaisir à lire les critiques très jeune et tout ça. Puis ça m'amusait de faire ça. Puis je faisais ça avec mon ami. Puis je crois qu'on avait créé même un petit journal à l'école. Enfin, un truc comme ça. Et puis, oui...
Donc cette passion pour le cinéma n'est pas nouvelle. Avant même
quand même.
Le journalisme, la télé, l'animation, peu importe. Il y avait la passion du cinéma.
Oui, comme spectatrice. Ouais, avec l'idée de vouloir faire quelque chose à l'intérieur de ça.
D'accord. Virginie Efira, si je vous dis à propos d'elle, joueuse de foot américain, peintre et fabricant de cabanes.
Ce qu'elle voulait faire quand elle était petite?
Non.
Ce qu'elle faisait l'été.
Joueuse de foot américain, peintre et fabricant de cabanes.
Les professions de ses ex?
C'est pas loin.
De ce qu'elle a été amoureuse?
Non,
elle était amoureuse.
Oui, exactement, Guillaume.
Oui, c'est vrai.
Profession à la famille, c'est ça.
Les sexes, c'est bizarre. T'as un rapport à la famille qui est un peu chelou.
J'ai dit que ce sont les professions d'autres.
Alors, c'est un peu romancé. Hein. Ma sœur, Héloïse, elle était dans une équipe de football américain, mais elle travaillait aussi dans la restauration. Mon frère, il a fait les Compagnons de France. Il travaille le zinc, l'ardoiserie. Et il a aussi construit des cabanes dans les arbres, mais sinon, il fait plein de... Et mon autre frère, Yorick, lui, fait de la peinture et des maquettes. Il peint beaucoup Bruxelles, des maquettes. maquettes de maisons bruxelloises, mais des maquettes assez dingues, comme ça, très très longues. Enfin,
vous êtes très famille, il y a des dates à laquelle auxquelles vous vous retrouvez tous les quatre, ou il y a des dates qu'il ne faut pas rater, je sais pas.
Non, c'est pas aussi institutionnalisé que ça, mais c'est vrai que c'est un plaisir quand ça peut se faire. Ma maman qui m'écoute en ce moment et que j'en parle.
Nous aussi, tiens, nous aussi fort.
Vit dans le sud, mon père en Belgique, donc bon, c'est un peu mélangé, c'est un peu éparpillé, mais oui, c'est assez chouette de, ouais, on se retrouve.
Et ils ont été, je parle des frères.
Puis ça circule réellement, en fait.
Ils ont été sympas.
Parce que parfois, des gens, ils se retrouvent à des, pardon, j'arrête pas de te couper, mais ils se retrouvent à des dates précises, mais après, ça circule pas, c'est un peu comme des choses. Il y a de l'intime, ça c'est quand même bien.
Et quel genre de frères ils étaient, les garçons à la maison, protecteurs ou au contraire ils
C'est moi la plus grande déjà.
Bah ouais, ça les empêche pas de se battre ou de pas être sympa.
Non, mais bon, il y a 6 ans de différence avec mon premier frère, 12 ans avec c'est ça.
Donc c'est plutôt vous qui vous êtes occupé d'eux que.
Ouais, je pense. Oh ouais.
D'accord.
Ouais.
Parlons donc de ce très bon film, Sibylle. Ou alors on peut aller plus loin maintenant, au-delà de cette romancière qui est en manque de création, d'inventivité, qui a le syndrome de la page blanche et qui a fait une analyse et qui continue d'ailleurs de faire son analyse en parallèle. Elle va même aux Alcooliques Anonymes expliquer son cheminement et son travail, mais elle va faire une espèce
ouais, c'est pas facile à dire parce que c'est pas un transfert.
Elle va s'identifier à l'histoire de cette comédienne qui elle aussi est amoureuse, elle aussi a un problème dans sa relation amoureuse, notamment elle attend un enfant et elle sait pas si elle le garde ou pas. Tout ça, ça lui renvoie une image d'elle qu'elle connaît et qu'elle a vécue.
Oui.
Allez hop.
Faut m'aider, Virginie.
Alors, qu'est-ce que tout ça m'évoque? On parlait de transfert. Non, alors je crois qu'on peut dire le mot contre-transfert, ouais. Presque. Ensuite, c'est quelqu'un, oui, au moment où on commence ce film, c'est quelqu'un qui sent une sorte de vide en elle, quelque chose qui
elle
va pas.
Elle est un peu perdue, oui.
Oui, elle a mais non, mais pourtant toutes les apparences vont bien. Je veux dire, elle a 2 enfants, le mari, son travail, elle la passionne et tout, mais c'est comme s'il y avait quelque chose. On sait pas, on peut tous ressentir ça. À un moment, on n'est pas tellement connecté au monde. Il y a comme une sorte de distance, comme du coton entre nous et les autres. Quelque chose qui va pas. Et elle a envie d'écrire. Mais on sent que dans ce geste-là, dans cette envie de création, il y a l'envie de creuser quelque chose aussi. Et on sait pas bien par quel biais. Et quand elle va rencontrer cette jeune femme qui va lui parler de son problème, elle vient, elle, pour régler un problème.
Elle est amoureuse d'un autre acteur. Et cet acteur est le
elle est en
fiancé,
couple avec la
réalisatrice.
Exactement. Voilà. Et elle ne sait pas si elle va garder cet enfant ou pas. Et dans la manière qu'elle a d'exprimer ce problème, et dans ce problème même, il y a une sorte de chose qui rejaillit et qui fait revivre, parce que le film, c'est beaucoup de sujets, mais c'est celui-là aussi, une passion amoureuse qu'elle a eue, dévastatrice, immense, au bout duquel elle a décidé de garder un enfant que l'autre ne voulait pas, ouais. Aussi. Et elle va remonter dans ce souvenir. C'est aussi comment on fait avec une passion comme ça et avec le souvenir de ça. Le film évoque aussi une autre chose, c'est que parfois, je sais pas si, je pense que tout le monde a pu ressentir cette chose-là. Il y a des souvenirs qu'on a qui se mettent dans à vivre de manière presque plus intense, ouais. Après, ou à trouver une résonance dans d'autres choses qu'on vit.
On les avait rangés dans un coin, ils deviennent extrêmement importants d'un
coup. Non, mais ça véhicule en nous tout le temps, ouais. Quoi, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est quelqu'un qui ressent donc cette chose qui ne va pas bien et qui décide tout d'un coup de je sais pas, comme de se laisser aller et pour voir de quoi elle est constituée, quelle est la matière qui la constitue, même de faire des actes fous, quoi. Mm-hmm. Comme, ok, je vais tomber, je vais me verser dedans et je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est quelqu'un qui n'est plus en train de se dire, moi je suis comme ça, du coup, bon, bah, je vais plutôt aller à droite et plutôt à gauche.
Et puis elle transgresse, elle fait des choses qu'il ne faut pas faire, en l'occurrence, enregistrer une patiente en analyse.
Oui, il n'y a que des transgressions. Ouais.
Voilà. Prendre la décision à la place de cette patiente, de savoir s'il faut garder ou pas l'enfant, lui donner ou pas le conseil, et d'aller sur le lieu de tournage. Et son propre psy lui
elle
dit,
va finir par diriger le film, quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça. Ou même servir de doublure à l'acteur principal. Ouais. C'est fort.
Et puis elle fait pas que juste diriger le film, elle dirige une scène qui est particulière, ouais. qui fait sens, c'est pas juste
une scène d'amour.
Une scène d'amour. Et ce qui est beau dans ce film, c'est cette notion de vertige, je trouve, parce que même les éléments qui relatent son passé, sa passion amoureuse, on se demande à un moment dans quelle temporalité on est. Et je trouve que ce trouble qui est entretenu par Justine Triet, il fait qu'on fait corps en fait avec votre personnage. Ce personnage, Sybille, a priori, c'est pas moi, mais pourtant j'y retrouve quelque chose de moi dans ce côté. Est-ce que l'amour, c'est pas simplement une fable, une histoire qu'on se raconte. D'ailleurs, on le voit, le personnage de Gaspard Ulliel, il est peut-être le plus grand menteur du monde, mais est-ce qu'au fond, l'amour, c'est pas un mensonge ?
Qui est l'acteur dont Adèle Exarchopoulos est amoureuse.
Est-ce que finalement, l'amour, c'est pas l'histoire qu'on se raconte ? Est-ce que votre personnage, qui semble aller très très bien dans la vie, deux enfants, un mari aimant, une sœur un peu folle, mais sympathique, est-ce qu'elle a pas tout pour aller bien ? Et bien finalement, elle se raconte peut-être l'histoire que ça va bien, mais en fait, c'est pas le cas.
Donc, oui, c'est ça, mais c'est le film dit à un moment aussi que elle dit « Ok, j'ai compris que la vie était une fiction », il y a cette phrase-là. Et c'est vrai que dans l'acte de tomber amoureux, c'est quelque chose qui existe. On tombe amoureux aussi du théâtre que comporte l'autre, avec les ombres qui sont dans ce théâtre, avec plein de choses qu'on imagine et qui sont grandes, vastes et tout ça. Donc il y a déjà cette idée de fiction et des choses qu'on se raconte et que plus que les actes même qu'on pose dans l'existence, c'est la manière dont on les perçoit et comment ils résonnent en nous qui font quelque chose. Et ce que Justine a réussi, moi, qui est vraiment... elles sont assez difficiles à définir, ces choses-là qui me plaisent, que je trouve assez rares dans le cinéma, qui appartient plus peut-être au cinéma des années 70, qui était peut-être un peu plus libre. C'est vraiment l'idée du film mental d'impression. Et ça, c'est quelque chose plus que des actes où on peut s'y retrouver en disant « Ah oui, il m'est arrivé la même chose que ce personnage. » C'est des impressions de quelque chose où effectivement, c'est comment les choses résonnent en nous, le vertige que des choses peuvent créer. Et puis aussi comment... Parce que c'est toujours... On parle beaucoup de l'identité. Qu'est-ce que c'est ? Il faut être soi. Mais qu'est-ce que c'est être soi ? Enfin, franchement, c'est quand même... C'est des choses tout le temps en mouvement. Mais c'est parfois elle est à la recherche de ça, mais c'est chez l'autre qu'elle va puiser des éléments d'elle-même. Comme ça fait très pompeux, mais concret
mais
dans le film.
À la fois, il y a le côté, elle vampirise ce que l'autre peut lui apporter ou ce que l'autre est en train de
vivre. Sauf qu'elle va voir des acteurs et là, eux, en matière de vampire, ils la dépassent lourdement.
Alors justement, il y a tout ce jeu, cette intelligence de Justine Triet aussi, c'est de cette mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a un regard sur le cinéma, sur le tournage, sur la manière très exacerbée où tout se passe, où tout est génial, où il y a des clashs, où il y a des amours, il y a des trahisons. Il y a des, on y va, on tourne, non, on est prêt, on n'est pas prêt, on prend le téléphone, on le jette dans l'eau, allez, maintenant, on est dans presque un sketch autour du monde du cinéma, elle a dû s'amuser à le tourner, ça aussi. Il y a la passion amoureuse dont vous parliez, puis il y a la psychanalyse, quand même, qui est très présente.
Ah oui,
d'ailleurs, on se demande quel est le point de départ de Justine Triet, c'est la passion amoureuse, c'est la psychanalyse, c'est le monde du cinéma qu'elle a voulu aussi égratigner.
Ce que j'aime bien chez elle, en fait, c'est que le film ressemble à ce qu'elle est dans sa tête, c'est-à-dire un chaos un peu merveilleux. Et donc, mais vraiment, elle se dit pas, tiens, je vais faire une thématique là-dessus et je vais.
C'est un mélange
de tout ça. Je crois qu'elle cherche un métier, qu'elle s'est dit psychanalyste intéressant, et puis les choses viennent s'agencer d'elle-même. Elle a cette chose, c'est une fille cérébrale, mais elle a un truc qui est plus fort que ça. C'est qu'elle a un truc instinctif. C'est comme si les choses la précédaient dans sa réflexion aussi. Je sais pas si vous comprenez.
Vous êtes très
clair,
et surtout, voilà, j'essaie de trouver les mots pour être sobre dans ma déclaration d'amour de votre jeu, Virginie Efira. Vous êtes extraordinaire dans ce film. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas avant. Ça veut dire que j'avais l'impression de bien vous connaître depuis quelques années, de bien vous connaître dans votre métier. Mais là, vous êtes extrêmement impressionnante dans ce film, dans tous les états par lesquels vous passez, que ce soit dans l'état d'ébriété, que ce soit dans l'état de passion, dans l'état d'amour, dans l'état de faiblesse ou de manipulation. Enfin voilà, je vous ai trouvé dinguissime dans Sybille.
Ah, je vous remercie beaucoup.
Voilà, félicitations.
Ça me fait très plaisir. Mais un acteur de cinéma, enfin, c'est pas pour cirer les pompes de Justine, mais c'est quand même vraiment aussi comment on regarde quelqu'un. Comment on le regarde sans...
Bah, vous avez déjà tourné avec elle dans Victoria, vous étiez très bien dans Victoria, mais c'est encore autre chose, et c'est encore une autre
facette.
Mais
parce qu'on est venu, on est très intime maintenant, donc il y a aussi quelque chose où
ça
on peut aller
plus loin. Vous avez plus confiance dans la direction de Justine ?
Ce que j'ai plus confiance, non, j'avais déjà confiance, c'est pas ça, mais c'est que
il y a
du
un
coup,
prise,
on se connaît plus, ouais. Et donc forcément, il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher plus loin, on se débarrasse d'une politesse aussi. Elle comme moi, il y a un truc dont je peux me servir sur les autres films aussi. Mais c'est vrai que Justine a puisque quand je l'ai rencontrée, qu'on a fait Victory ensemble, moi, clairement, ça a transformé beaucoup de choses dans mon rapport au travail après, donc dans ma vie, quoi. Hein. J'ai d'autres rôles, c'est vraiment agrandi. C'est comme si tout d'un coup, ce que je faisais était plus en adéquation avec moi. C'est assez important dans une pauvre petite existence, mais c'est vraiment ça a du poids pour moi, quoi. Donc il y a aussi chez elle actionne chez moi une volonté vraiment d'abandon et de quelque chose à raconter ensemble qui est très fort.
Le film sort ce vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que ça sortira en même temps que il sera projeté au Festival de Cannes et juste quelques minutes après que vous ayez monté les marches de ce Palais des Festivals aux côtés, j'imagine, d'Adèle Exarchopoulos,
de tout le monde,
de Gaspard Ulliel, ouais. D'accord, de Nils Schneider et Laure Calamy, j'imagine, évidemment, oui. Justine Trier, et avec Arthur Harari, qui est son cher et tendre mari.
Et qui est aussi co-scénariste et qui joue dans le film, et Paul Amy aussi.
Et est-ce que l'enfant sera là, puisque c'est le fils aussi de Justine?
Oui, alors...
L'enfant qui est en psychanalyse dans le film, c'est son fils?
Ah, pas du tout.
Alors, je croyais.
Ça, ouais. Non, Daniel, qui est super d'ailleurs, ouais. Hein, qui joue... Daniel qui joue dans le film, c'est pas du tout le fils de Justine. D'accord. Mais en revanche, la fille de Justine joue dedans.
D'accord.
Liv. Et il y a Jean aussi qui joue ma fille, qui jouait déjà dans Victoria, ouais. Et dans la bataille de Solferino.
Qui est là. Ouais. Donc c'est très familial et tout à fait en confiance tout ça. Vous êtes avec votre compagnon, elle avec son mari, les enfants sont là.
Vu ce qu'elle demande à faire aux enfants, franchement, heureusement qu'elle connaît les parents, quoi. Ouais.
C'est vendredi, donc ce vendredi 24 mai, Sibylle, la sortie au cinéma. Jean-Dominique Besnéard, yes. C'est un succès déjà annoncé.
Ah, c'est sûr, Nagui. Après avoir écouté vos analyses aussi élogieuses que Sibylline, de Sibylle, oui, Sibylline.
Mais c'est qui pas pareil.
Dont le sens, presque, c'est
une inversion.
Ouais. Oui, le sens n'est pas facile à saisir. Parce que faut vous suivre, hein, même si vous essayez de trouver les mots, comme vous disiez à l'instant. Donc après vos éloges...
J'étais ému, vous pouvez pas comprendre.
Les auditeurs, oui, vont foncer au cinéma voir ce film. En plus, Virginie Efira, dont le rôle éponyme, ça fait du bien de placer ce genre d'adjectif éponyme.
Éponyme,
oui. Ouais. Bon, elle est sans chasse. Alors vous me direz que c'est un pléonasme. Virginie Efira, elle est toujours sans chasse. C'est vrai, mais là, elle est encore plus très impressionnante en romancière, recrachée dans la psychanalyse, mais qui cherche de rechef l'inspiration, qui vampirise le psychisme, la psychile d'une jeune actrice en détresse qui la fascine. En l'occurrence, il s'agit de Margot, alias Adèle Adèle.
Non, arrête, sois poli. Bon, bref. Exarchopoulos.
Ouais, bref, pas facile comme situation, mais encore plus épuisant et résumé. Alors, je sais, c'est pas un sujet qui prête à sourire, mais juste avant l'émission, j'avoue que j'ai souri. J'ai même ri. Quand JNB, notre rédac chef, qui vous faisait le pitch, Nagui, du film, il vous a expliqué. À un moment, oh mon maître, ce serait très bien que vous disiez que l'intrigue se corse quand Margot veut que Sibylle la rejoigne à Stromboli. Stromboli. Au Stromboli? Ah, le scénariste pouvait pas trouver un endroit plus original qu'une pizzeria. Voilà, cher Virginie Efira, comment je prépare la bande originale. Dans la précipitation, oui. Les approximations géographiques, oui. Le mépris pour la vulcanologie et l'ignorance crache des symboles. Je suis pas psychanalyste. Je suis orthophoniste, c'est star, vous
ça
savez,
s'entend.
Mais quand même, j'ai compris que de notre inconscient peuvent jaillir les souvenirs les plus vertigineux, le vertige dont tu as parlé, il est là, les désirs les plus sauvages, les fantasmes les plus insensés, à l'image des gaz recelés, des scories, des laves crachées par le Stromboli. Bonne émission.
On va nettoyer le micro, merci à Gary.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
C'est vrai qu'il a raison, c'est pas naïf que Sibylle, ce prénom d'obscurité, soit le prénom de ce personnage.
Oui, je crois qu'au départ, c'était pas ça, c'était un feuilleton. Que j'utilise exprès le mot feuilleton que plus personne n'utilise parce que c'est...
Oui, maintenant on dit série.
Oui, oui.
Feuilleton, c'est joli.
Hier soir, j'étais au dancing jusqu'à... non, et donc... Comment s'appelle l'actrice qui joue dans Jamais sans ma fille? Voyez, Jamais sans ma fille?
Je vois.
Voilà. Okay, bon, l'actrice qui joue là-dedans, ouais, faisait une série, un feuilleton dans les années 70, je crois, qui a complètement marqué Justine et qui s'appelle Sibylle. Et donc c'est venu de là. Okay. Et après, comme il y a eu cette chose-là, elle a changé l'orthographe, le truc, et il y a l'idée de Sibyllin, de quelqu'un...
C'est une prophétesse, la Sibylle.
Oui. Voilà, Sally. La prophétesse et tout. Mais c'est pas au départ...
Sally Field, non
ouais. Sally Field, ouais. Oui, voilà. C'est ça. Oui, très bien.
Merci. En tout cas, l'obscurité et la lumière jouent, parce qu'il a raison aussi, le fait que le film se passe sur cette île où on est, là cette fois-ci, au soleil. On n'est plus du tout dans l'obscurité d'un salon de psychanalyse. Et on est presque avec les images de Romy Schneider et d'Alain Delon avec la piscine. C'est-à-dire qu'on a ce côté soleil, mer, Méditerranée, amour, et tout devient lumière. C'est là où le film se déroule.
Ouais, je crois que Stromboli, c'est un film de Bertolucci, je crois.
De Rossellini.
Rossellini, pardon. Ouais. Rossellini, ouais.
C'est avec Ingrid Bergman.
Des années 50-60.
Oui, ouais. Mais moi je pensais à la scène de la piscine avec Alain Delon. Et on était dans cette scène que vous dirigez justement quand vous prenez. Parce que la réalisatrice pète un câble et plonge à la mer.
Elle saute
du bateau,
elle
dit je quitte le tournage, je me casse.
C'est-à-dire que cette réalisatrice quand même se retrouve avec son acteur qui est son mec aussi. Et comprend qu'il a une relation avec...
Non, mais elle sait. Elle le savait même avant de l'engager.
Elle ne savait pas qu'elle était enceinte de lui.
Non.
Mais elle veut continuer son film, quand même. Elle a une sorte d'ambition incroyable. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel film, puisqu'elle le tourne à Stromboli. Ouais. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur.
Il y a un truc un peu pervers. C'est qu'aussi, elle dirige une scène d'amour. Donc on imagine que c'est pour servir le film. Mais il y a aussi un peu de soi qui transpire. On se demande ce qu'elle fantasme dans ce couple. Enfin, avec son
le
mec
transfert.
Qui la trompe.
Ouais.
Et puis Justine Triet qui réalise aussi ce film, donc on se demande en quoi...
Avec Justine qui est quand même sur le tournage, parce que le tournage ressemblait par moments quand même au film, hein. Je veux dire vraiment. Oui.
Ça devient inquiétant, ça.
Non, mais vraiment.
C'est-à-dire
que la scène là qui raconte, où on voit cette actrice géniale, Sandra Hüller, donc qui est la metteur en scène du film et qui pète un câble et qui décide finalement d'abandonner la mise en scène et saute du bateau et tout. Et Justine, dans ce chaos, elle est très drôle, mais elle part dans des délires et tout ça. Je sais plus, c'est juste avant qu'on tourne cette scène, elle s'énerve sur les choses, en plus la moitié des gens dégueulaient dans par-dessus bord, enfin oui,
plus l'assistant qui dit il faut qu'on tourne parce qu'il y a un nuage qui arrive, la lumière sera pas la même, la nuit va tomber, enfin
Ça, et puis Justine qui vraiment juste avant de tourner cette scène, je la vois commencer à crier, jeter le scénario par terre et dire je veux qu'on me ramène au port. Elle joue la scène,
mise en abîme.
C'était vraiment comme ça.
Hein.
Dans votre chambre, comme votre personnage, dans la chambre aussi à Stromboli, qui rejoue les dialogues, qui est comédienne aussi, qui rejoue la partition des deux comédiens dans la vraie vie qui s'engueulent.
Ouais.
Il y a un truc permanent. Je parle de vertige parce qu'à chaque fois j'ai eu cette sensation-là
de la même manière que nous, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans la fiction, on ne sait plus si on est dans le présent ou dans le passé aussi, puisque tout ce que vous vivez vous renvoie à des images, à cette passion amoureuse que vous aviez vécue avec le personnage joué par Neil Schneider, qui est le père de l'enfant que lui n'a pas voulu et que vous avez gardé.
Exactement.
Voilà, j'espère être clair. Wow. En tout cas, j'espère qu'on vous donne surtout envie d'aller voir Sibylle, parce que c'est un très bon film. Et surtout, allez-y avant que il ait un prix ou une récompense et qu'on dise il faut absolument le voir parce qu'il a été primé. Au moins, vous serez allé avant et vous aurez eu
soyez précurseurs. Allez-y.
Voilà, exactement.
Lanceur de tendance.
Restons en Belgique avec Guillermo Guiz.
Ah, il est là.
Oui.
Ça va, les amigos?
Oui.
Bon, ça y est, dimanche, on va tous voter,
ouais.
À part Daniel. Bon, j'espère que ça va se régler un jour, cette histoire d'échéance de droit civique.
Moi aussi.
C'est
moi
trop
aussi.
Con. Pour un chien. Même Alain Bougrain-Dubourg me disait off the record qu'en effet, ce Fox Terrier, il avait un regard très humain et qu'à votre place, même lui, dans la même situation, une boîte de nuit, un slow, une conso, tu sais comment. Enfin bon, à part notre apprenti vétérinaire, on vote dimanche et en France, c'est que les européennes en France, l'équivalent politique de la Coupe de la Ligue.
Pas en Belgique.
Non. Tu sens clairement que c'est la Coupe de la Ligue, hein, les européennes. Tu sens clairement que sur un malentendu, tu vois, même le PSG pourrait gagner, tu vois, vraiment. Mais chez moi, en Belgique, c'est les européennes, les régionales et les fédérales. J'ai dit chez moi, Virginie. Chez moi. C'est subtil, mais il y a un sous-texte, hein. Vous avez pris la nationalité française. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai arrêté de m'hydrater pendant plusieurs jours. Pour tenir bon, j'ai bu mes larmes. Parce que j'aime pas utiliser le terme trahison à la légère, mais ce que vous avez fait,
Mais je suis belge, toujours.
Oui, mais ces gens, ils nous ont fait beaucoup de mal, Virginie. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Hein? Sans compter les films de Azeri Taxi. Gérard Rolls. Gérard Rolls. Ces gens nous ont fait du mal. Bref. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement désintéressé par la campagne politique.
Quel acteur.
Quel acteur. Alors que je viens d'une famille très, moi, je viens d'une famille très politisée, hein. Genre, ma mère, elle s'est remariée avec Patrick Balkany. Elle va mieux d'ailleurs. Merci pour les petits mots de soutien, Leïla. C'est super. Et moi-même, j'étais passionné par la politique. Quand j'étais petit, vraiment, quand j'étais adolescent, je me disputais avec mon vieux réac de père. Il me faisait, non, à ton âge, blablabla, bla bla, on se fait pas tatouer Jean-Michel Apathy sur le triceps. Je suis là, fuck you, je suis plus un bébé. Ma première fugue, t'imagines, à 11 ans et demi pour Jean-Michel Apathy. Bref, plus tard, je me suis rêvé grande plume politique et j'ai failli le devenir. Vous savez qu'en 2008, quand j'étais jeune journaliste à Bruxelles, j'ai écrit un article sur la crise politique belge dans le Figaro magazine.
Véridique ?
Véridique. Ouais. Ils m'ont jamais rappelé ces bâtards. Fasciste ! Tout ça parce que je commençais mes articles par oui, ça va les amis gosses ? Je trouve pas que ce gouvernement, il donne envie de crever dans un bain turc. Je suis passé du Figaro magazine à France Inter. Moi, je vais finir punk à chien, quoi. C'est sûr, c'est le déclin du centre de la pente.
Tu peux pas aller
en attendant, la politique, ça, en ce moment, ça, j'en ai vraiment rien à bifle et je me demande pourquoi. Je me suis rendu compte qu'en fait.
Bifle. Ouais, j'ai entendu bifle.
Ouais, bifle rien à bifle.
Vas-y, vas-y.
Je me suis rendu compte qu'en fait, plus je gagne ma vie, moins les décisions politiques impactent ma vie. Et plus je me désintéresse de la politique. J'en parlais récemment avec Nagui, qui me disait, et encore, c'est que le début. Hein. Il me disait, là, t'es qu'un crevard de chroniqueur, mais tu verras quand t'auras de quoi t'acheter un requin. Je lui ai dit, ça s'achète un requin. Il me dit, toi, il faut que tu passes à la maison. Tu vas halluciner. Mais je prends un exemple. Depuis quelques mois, les véhicules diesel d'avant 97, ils sont interdits de rentrer dans Bruxelles. Vous savez, ils sont. Ouais. Et ma grande sœur, c'est vrai. Et ma grande sœur, elle a une très très vieille Suzuki diesel, très vieille, genre bien avant la condamnation de Daniel et tout. Et ils ont fait des analyses CO2 sur le. Je pense genre les experts, ils sont morts de la silicose. Vraiment, c'est le pot d'échappement, il est en cire d'abeille. Vraiment, c'est une très vieille voiture. Mais ma grande sœur, du coup, elle peut plus rentrer dans Bruxelles avec sa voiture et elle peut plus venir me dire bonjour. Je vais être honnête, ça m'arrange un peu. Ma sœur, franchement, je dis pas que c'est pas une bonne personne, qu'elle a pas les qualités. Je la trouve vaguement sympa dans les grandes lignes et tout. Elle a des enfants, j'aime bien la plus part, mais il y en a, il faut bien du judo et tout, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle vienne me dire bonjour, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, cette décision politique, elle l'impacte très concrètement, elle, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter et de la kétamine et une voiture, et alors qu'à un moment, il y a des choix quand t'es dans le dénuement, c'est vrai, alors que moi, si le gouvernement me disait que dorénavant, on peut se déplacer uniquement à cheval, je pourrais m'acheter un cheval. Bon, je fais qu'une chronique par semaine sur France Inter. Ce serait un petit cheval, tu vois, ou un cheval qui est un zona. Tu vois vraiment, ou un moche cheval. Tu vois, Tanguy Pastoureau, par exemple, pourrait s'acheter un manège. Mais moi, clairement, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, qu'on augmente le prix de ceci, qu'on interdise l'accès à cela, finalement, moi, je peux contourner ça parce que je gagne bien ma vie pour le moment avec des sous. Eh bien, le seul truc qui pourrait vraiment m'impacter, c'est le niveau de la mer qui va grimper de.
Eh ouais.
Et voilà. Et c'est pour ça que je vais aller voter pour le PSG dimanche. Allez, bonne émission, les amis.
Merci. Guillermo.
France Inter. Nagui. La bande originale. Et sembra un giorno come un altro.
Il primo giorno. Vous chantez beaucoup dans le
film. La chanson originale, là, c'est Nino Ferrer.
Oui, c'est ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est super beau. C'est vraiment très, très beau. Moi, j'aime beaucoup Nino Ferrer.
Il est formidable.
Très
sous-côté.
Parce qu'il y avait de la drôlerie et tout, et il y avait une vraiment très sous-côté, et une mélancolie dingue, et ses chansons en italien sont sublimes. Et dans le film, moi, je chante un peu.
Oui.
Ouais. Ah oui,
je chante avez... bourré, du coup, je peux pas chanter bien et déployer.
C'est là, vous chantez bien.
Pas moi ça. Ouais, non, mais je sais.
Il y a une scène dans le film où vous chantez.
Oui, oui, à un moment je chante un peu. Non, ça,
j'ai pas la version du film. On n'a pas le droit. Apparemment, on l'a pas reçu, mais ça va sortir en CD. Votre version de Fever va sortir ou pas ?
Il y a 10 secondes dans le film, t'imagines ?
Ouais, oui, il y aura l'album.
Virginie, on parle d'une tournée aussi.
Oui, c'est pas faux.
Moi, je suis sur un taratata spécial Virginie Fira, mais je sais pas.
Ça passe à une vitesse, les trucs.
Parlons des vraies choses.
Non, elle chante et on va parler encore de musique, de la musique que vous écoutiez ou celle qui était dans votre environnement dans les années 80 avec Dorothée.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Évidemment.
Dites-moi, où est passé mon cœur ? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs.
On est en 82, Virginie Efira, et c'est votre première scène. Vous avez 5 ans et vous récitez Monsieur le Vent. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Vous l'avez raconté ?
Alors là, j'étais partie sur Dorothée, mais je veux bien revenir sur mon
idée. Non, mais non, restons sur Dorothée.
Qu'est-ce que ça vous évoque d'abord, Dorothée ?
Ah, mais c'était fou, quoi. Je veux dire, mais c'était vraiment... Je l'ai vu en vrai, ça m'a fait un choc, plus que si j'avais vu Mick Jagger. Mais non, parce qu'il n'y avait pas de pitié pour les croissants, ouais, le dimanche.
Oui,
est-ce que c'était pas hyper chouette ?
Ariane et Corbier.
C'était hyper drôle, non ?
Super. Les musclés.
Il y avait un truc de second degré qui était hyper fort, il y avait un décalage.
Je suis pas sûr.
Ah si, c'était super bien, mais revois. D'accord. Enfin, revois peut-être pas, mais non plus, on va pas exagérer, mais...
Je pense que ça a mal vieilli, si je...
Oh non, il y avait un truc vraiment rigolo, quand
même. On va rester dans le souvenir, peut-être.
Non, mais c'est un truc d'enfance.
Ouais, voilà. Et sinon, à 5 ans, je suis montée pour la première fois sur scène pour faire une poésie, enfin, comme on demande aux enfants, mais il y avait beaucoup de monde et tout. Et je me souviens que j'avais un... Enfin, je me souviens que je ne me souvenais plus, en fait. J'avais un trou de mémoire, pas possible. Et ça m'a semblé tellement absurde de ne rien dire devant tout le monde que j'ai eu un fou rire. J'ai un fou rire et ça a fait rire tout le monde.
Ben oui, communicatif,
oui,
bien sûr.
Oui, ben surtout un enfant qui se met à rigoler, comme ça, ça fait, enfin, il y a un truc plutôt amusant.
Non, puis avoir un trou de mémoire sur le, Monsieur Levent, c'est drôle.
Oui, mais ça a commencé dès le départ, je crois que j'ai même rien pu dire. J'ai regardé les gens, je me suis mis à rire... Attends, c'est quoi la blague qu'il vient de dire là ?
Monsieur Levent, Levent.
Monsieur Levent, il n'y a rien.
Ah, Levent, ouais.
Ça, c'est fait.
Non, mais donc, il y a un souvenir quand même de cette espèce d'étrange pouvoir d'être sur scène et de faire passer une émotion. Oui, c'est ça, oui, c'est assez marquant, ça.
En 2008, vous écoutiez Virginie Fira.
Ouais, on est loin de Dorothée, évidemment, heureusement.
Oh, beaucoup de second degré aussi, hein, chez Bob. I want you. Là, ça correspond à quelle ambiance dans votre vie, Bob Dylan ?
En fait, je suis tombée amoureuse d'un garçon et je savais qu'il était fou de Bob Dylan. Et moi, j'avais une culture musicale principalement black américaine. Et je connaissais pas bien. Et du coup, comme j'avais rendez-vous avec lui, j'ai commencé à écouter Blonde, mais tous les albums.
En fait, vous êtes instruit pour pouvoir.
Exactement, pour pouvoir. Et du coup, je me souviens que c'était lamentable au premier rendez-vous, parce que j'ai dit oui, j'aime tout, sauf son hypocristique, ça j'aime un peu moins. Mais enfin, alors que je m'étais tout ingurgité. Et après, ce qui est assez joli,
vous avez potassé un rendez-vous amoureux.
Ouais, complètement. Ah oui, complètement. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il en est resté des choses aussi. Donc lui, enfant. On parlait de l'amour et de la fiction. Je suis avec une fiction, évidemment, la fille. Mais après, il reste un amour...
Pour Dylan.
Bah oui.
Mais c'est drôle de s'inventer un personnage pour séduire ou...
On n'a pas toujours une grande confiance en soi. Ouais. On pense que soi, c'est pas grand-chose et qu'il faut bien rajouter des éléments, quoi.
Oui, mais enfin, travailler le personnage, c'est-à-dire potasser, ça, c'est quand même
j'ai des copines qui regardent le classement de la Ligue 1, hein, si elle, avant des rencarts.
Mais tu joues un jeu, essaye de faire « Ah ouais, génial, je m'intéresse, mais en improvisant, rarement en bossant, en documentant. »
Ah oui, oui, non, je prépare une thèse.
Ouais,
il y a les bons élèves et il y a toi.
C'est ça. Et on est en 2008. Vous quittez M6 pour rejoindre Canal+, où vous animez Canal Presque.
Ouais, ouais.
Et alors, c'est très drôle ce que vous racontez dans les émissions, dans les interviews, ouais, sur la fabrication de l'émission.
Ouais.
Il y avait des auteurs avec vous, et ouais, en fait, vous n'étiez pas toujours très convaincus. C'était drôle, que c'était pour vous, mais...
Ah non, pas du tout.
Vous êtes envoyé comme ça au charbon avec des textes qui n'étaient pas vraiment...
Ils étaient peut-être bien, mais moi je ne les comprenais pas et c'était moi qui devais les dire. Alors il n'y a rien de pire que de devoir faire un truc drôle que soi-même on ne trouve pas drôle.
Et vous n'osiez pas dire à un moment...
Si, mais non, j'étais nulle en fait. Si, j'osais dire, mais du coup j'étais beaucoup trop castratrice ou beaucoup trop... Donc c'était pas chouette quoi, on n'arrivait pas. Je pense que tout le monde individuellement était bien. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes que je revois aujourd'hui et qui y en a un qui est scénariste du Grand Bain et tout ça. Donc il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de talent, mais ensemble on était quand même un peu nuls.
Il faut quand même rappeler une chose. Et puis dans cette période de Canal, les auteurs de Canal écrivaient et puis ils disaient, ce sont des auteurs de Canal. C'est-à-dire dire à un auteur de Canal que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il faut avoir une carte Goldmaster.
C'est sûr. Comme je venais à Nouvelle Star, c'était pas non plus Jamel Debbouze, tu vois, qui j'étais. Non. Donc c'est normal. Mais en même temps,
je veux dire, il y avait une suffisance de la part de certains auteurs de Canal qui faisaient
certains.
Oui, j'ai dit de certains auteurs de Canal qui faisaient que si tu faisais la moindre réflexion sur c'est bien ou c'est pas bien.
Ils sont vécus là.
Totalement. Mais qui tu es pour juger?
Oui, mais le problème, c'est que c'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. C'était peut-être bien, mais après, c'est toi qui dois le dire.
Oui, donc, tu peux pas faire.
Il faut le porter.
Franchement,
oui.
Moi,
c'est
très difficile de faire un truc drôle que tu trouves pas drôle. Moi, j'allais voir le public avant en disant je suis vraiment désolée, si vous pouvez rire de temps en temps. Non, mais c'était un problème. Il y avait des sketchs à faire.
Trop franche. Virginie, trop franche. Il y a un moment, il faut savoir filtrer. Là, vous êtes trop sincère.
C'était quand maintenant ou bien
non,
à l'époque
de dire, non, mais à l'époque d'aller voir le public en disant riez.
Non, j'étais trop gênée, c'est trop gênant, enfin c'est pas possible.
Okay. Vous croyez que tout à l'heure Nagui a dit au public j'ai pas compris le film?
Je l'ai entendu, non. Monsieur. Si.
En tout cas, ça vous décide à arrêter est-ce que c'est cette
expérience? Non, ce qui était aussi pas mal à Canal et en même temps là ça s'est retourné contre moi, c'est que c'était une chaîne qui n'avait pas besoin. Enfin, même s'il n'y avait pas d'audience, on a dû quand même faire cette émission pendant un an, quoi.
Ils l'ont pas arrêté, quoi.
Mais je crois qu'ils ont réussi quand même à... Moi, je faisais plus qu'un sketch par... Mais je m'assommais presque la veille pour pas être trop consciente. Mais c'est vraiment...
J'adore la formule.
Non, mais c'est vrai.
Je m'assommais la veille.
Ouais, en 2000...
Donc ça reste un excellent souvenir. Ouais, c'est...
En 2009, Virginie Efira a écouté George Benson. J'adore. Comment ne pas bouger là-dessus ? C'est impossible. Il se passait quoi en 2009 avec George Benson ?
Ah, j'adore. C'est lié à un film, ça, déjà. Quand j'entends la chanson, je pense à All That Jazz, qui est un film qui a justement eu la Palme d'Or ex aequo, je crois, avec... Mission. C'est un sublime film de Bob Fosse. C'est une comédie musicale. Ouais. Vous voyez de quoi il s'agit ?
Grave.
Et il y a cette chanson-là, il fait passer des castings à des danseuses comme ça, pour sa comédie musicale là-dessus. C'est très beau. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Parce qu'on est quelle année, là ?
2008.
Ouais, vous êtes sur scène au théâtre Marigny.
Ah oui, oui c'est ça. Il y avait peut-être le fantasme comme ça. En Belgique, d'imaginer... Oui, la devanture des théâtres parisiens était une chose un peu comme vraiment un monde inaccessible. Et donc, hey, Broadway. Et c'était vrai, il y avait ça, quoi. Je jouais au théâtre...
Marigny étant le théâtre dirigé par, à l'époque...
Pierre Lescure,
que vous retrouvez là, président du Festival de Cannes.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est quelqu'un... vous l'avez connu ?
Oui,
vous avez travaillé avec lui. Il y a peu de gens comme ça. Je veux dire, il est rare. C'est quelqu'un qui sait vraiment regarder l'autre.
Comme patron, c'est plutôt agréable.
Bah oui. Ouais. Donc c'est pas juste HEC, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui a trouvé beaucoup de talent et tout ça, mais qui a un intérêt, une curiosité pour l'autre. Et moi, je me souviens parce que la confiance en soi ou l'idée, en tout cas, juste de penser qu'on est quelqu'un de valable et qu'on peut peut-être essayer de réaliser des choses qu'on aurait vraiment envie de faire, on peut se la construire un peu seul. Mais enfin, seul, c'est compliqué. Il faut bien des regards de temps en temps.
Bien
qui
sûr.
Vous... sais que Pierre Lescure, il a offert ce regard-là à quelques personnes et à moi aussi à ce moment-là, et c'était important.
Comme un comédien, il faut avoir le désir dans le regard d'un metteur en scène ou d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est pareil pour un patron, pour une direction, et c'était le cas aussi pour... Là, il avait non pas un rôle de metteur en scène, mais de directeur de théâtre,
oui,
de programmateur.
Oui, c'est ça. Donc, ouais. Même plus que sur l'idée du jeu, mais c'est aussi quelqu'un sur ce qu'il peut voir en toi ou te dire... je te considère. Moi, j'étais à la télévision, c'est pas évident d'aller faire du théâtre après. Il avait aucun snobisme, il me considérait.
Ça, vous avez eu peur que la bascule soit pas possible ?
Je me posais pas la question. Je la pensais impossible, mais bon... Et alors, je l'ai bien trouvé moi-même un endroit... Finalement, elle est possible, hein. Les choses sont pas
pour
si...
Pour vous, elle a été spectaculaire, en fait. C'est pas le cas, je trouve, de beaucoup de monde. On oublie...
De pouvoir passer d'une chose à l'autre.
Aussi, en arrivant aujourd'hui, par exemple, avec un film de Justine Triet.
Oui.
Bah, y a eu quelques années de travail aussi.
Oui, mais quand même.
Et pour que la critique accepte, j'imagine, non ? Est-ce que vous renvoyez beaucoup cette image de votre parcours avant de vous accepter, de ne parler que de votre travail.
Mais c'est normal parce que c'est pas comme si avant c'était pas public, donc on voit, et cette image là elle existe, hein, c'est pas
en même temps elle était pas négative, cette image. Vous n'aviez rien à nettoyer du passé.
Non, d'abord, ça me concerne pas si c'était négatif, positif. C'était moi. Moi, ce que je devais régler presque psychanalytiquement, c'était de pas en avoir honte, de pas quand on me dit, mais alors, si t'aimes tellement jouer, pourquoi t'as fait de la télévision avant? Surtout, c'est cette idée-là.
Mais peut-être
en fait.
Que vous jouiez l'animatrice de télé aussi avant.
Mais peut-être que j'en étais pas capable avant, que j'avais trop peur
parce
que
moment,
c'était mes désirs les plus profonds et que je pouvais pas aller justement vers mes désirs les plus profonds. Enfin, je sais pas, quantité de choses.
Guillaume Mogouille.
Moi, je me demandais si, quand on est comédienne comme ça et qu'on arrive au niveau où vous êtes maintenant, est-ce que vous étiez. C'est pas une blague, c'est juste demander. Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il faut passer par des films qu'on trouve plus légers ou qu'on trouve moins. Dont on est moins fier finalement, est-ce que ça, c'est une étape obligée pour arriver justement là où vous en êtes aujourd'hui ?
C'est-à-dire que comme à la sortie d'M6, il n'y avait pas complètement Audiard qui était là en disant alors viens donc,
qu'est-ce que tu fais ce soir ?
Attends, on tourne un petit court-métrage.
Les Dardennes non plus ?
Les Dardennes non plus, mais c'est normal, enfin je veux dire. Mais du coup, on essaie de se dire, c'est assez logique que ça n'arrive pas, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive des comédies romantiques. Comment on peut faire à l'intérieur pour que certaines choses qui nous semblent peut-être un peu lourdes le soient moins ? Et au moment où on est en train de tourner, t'as aucun jugement sur le film. Après, c'est vrai que quand tu le regardes, surtout que moi j'aime vraiment beaucoup le cinéma, je peux le replacer. Je me dis pas, waouh, ok, Orson Welles aurait fait pareil. Non, ça c'est sûr. Mais au moment où t'es en train de tourner, t'as une croyance très forte. Et puis la responsabilité, tu te dis, oh, je vais faire peut-être des bons, des mauvais films, je sais pas, mais responsable malgré tout en tant qu'actrice de ce que tu essaies de raconter. Et puis t'essaies de trouver, surtout après, des gens avec qui tu peux. Avec qui tu t'entends, avec qui tu peux partager quelque chose.
La bascule s'est faite à quel moment? À quel moment vous êtes dit, pour employer cette expression de bankable, à partir de quel moment vous êtes dit là, on est passé, ou votre agent vous a dit là, on est passé de l'autre côté?
Oh ben, je sais pas si on consciemment on se dit de l'autre côté, il y a peut-être des étapes, c'est-à-dire que
le film d'Anne Fontaine, à un moment tout de suite, oui, ça vous plaçait dans un autre cinéma, j'ai l'impression.
Oui, mais c'est surtout les résonances sur soi, c'est-à-dire qu'effectivement quand ça résiste, inutile d'insister. Donc il y avait des films, peut-être les films que moi j'allais voir comme spectatrice qu'on me proposait pas, et quoi, je vais être frustrée. Non, je me dis bon, OK, j'ai un emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet emploi? Du coup, on regarde des films des comédies romantiques ou avec Drew Barrymore, en disant moi, il est pas mal cet emploi, ouais. En fait, il y a des trucs cool à faire. Et donc c'était 20 ans d'écart. 20 ans d'écart, qui est un film qui reste complètement dans les codes de ce genre de film-là. Oui. Mais tout d'un coup, je m'étais aussi investie dans le scénario pour essayer de ramener à des choses qui me plaisaient plus. Et c'était la première fois que je valorisais vraiment tout ce qu'il y avait autour de moi. Enfin, voilà, que je trouvais vraiment que c'était...
Petit clin d'œil au Festival de Cannes par rapport à la question que tu posais, Guillermo, et de la carrière de Virginie Efira. Penélope Cruz faisait des petites séries, a été animatrice, présentatrice à la télévision. Et Almodovar l'a fait tourner aussi.
Mais elle a commencé à 15 ans et demi.
Elle a commencé à 15 ans et demi.
Penélope Cruz, Ramon, tout ça, elle était hyper jeune.
Ouais, c'est ça.
C'est pas comme moi qui ai commencé 1000 ans après.
Mais peu importe, non, mais je parle du parcours. Ah oui. Le parcours télé.
Elle présentait des émissions pour télé.
Ouais, la Quinta Martha, ça s'appelle.
La Quinta Martha, ok.
La Quinta Martha, qui sait qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est la Quinta Martha.
Ouais, ouais.
Nous avons Pierre Canoui. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Qui
Bonjour.
Est psychiatre, pédopsychiatre, psychopathe. Praticien, je vais y arriver, président de la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse. Il y en a du psy. Et donc, puisque l'un des sujets, d'ailleurs, je voudrais juste l'explication, est-ce que pour faire ce que fait le personnage de Virginie Efira dans Sibylle, il faut suivre une analyse pour pouvoir ensuite être psy?
Alors là, je crois pas du tout. Mais je crois qu'il faut avoir un grand talent. Et un grand talent parce que
Non, on parle pas de la même chose, excusez-moi, je parle pas pour être comédienne. Hein.
Non. Je dis bien, pour faire ça, il faut pas forcément faire une psychanalyse. Mais il faut être au clair sur des choses importantes dans sa vie. C'est-à-dire qu'on voit dans ce film comment les cercles de la vie vont s'emmêler dans un fouillis inextricable. Et les trois cercles de la vie qu'on pourrait avoir, c'est l'intime, le privé et le public. Et on voit dans ce film comment vous arrivez à montrer comment tout ça fait une effraction dans tous les coins, et que l'intime vient convoquer le privé, retourne dans le public, et donc ça donne quelque chose d'absolument époustouflant, et le jeu de la comédienne que vous êtes est remarquable par rapport à ça. Mais justement, c'est ça un petit peu le sens de l'analyse.
Merci Pierre pour cette analyse du film, c'est pas du tout la question que je vous posais.
D'accord.
Je vous demandais, pour être psy dans la vie, on n'est plus au cinéma, on n'est plus dans le film, pour être psychanalyste, psychothérapeute,
faut suivre une analyse.
Psy.
Voilà. Alors, pour être psy, ça c'est la qualité. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être psy? Il faut l'expérimenter.
Je pense que j'ai
donc il faut.
C'est ça.
Si. Ah voilà. C'est bon.
Il faut l'expérimenter. J'ai tout à fait bien compris votre question,
d'accord.
Et j'ai même été avant vous, dans le sens où
toujours,
je disais.
Le début. Moi, je suis même pas encore là. Donc c'est pour vous dire. C'est
je disais que pour faire la qualité essentielle pour être un psy, c'est qu'il faut l'avoir appris. Il faut avoir appris ce métier, avoir fait une psychanalyse, avoir fait une psychothérapie suffisamment longue, avoir appris un petit peu beaucoup de choses, et être aussi ce que fait d'ailleurs votre personnage. Elle est supervisée par quelqu'un, hein, c'est pas, elle les prend en psychanalyse, là c'est la supervision, où il lui dit respecte un petit peu les règles qu'elle transgresse, alors hardi petit, dans tous les sens. Donc effectivement, oui, c'est un métier qui s'apprend pas dans les livres et qui s'apprend dans l'expérience.
Est-ce que comme ça se passe dans le film, mais c'est la fin de la parenthèse, un psy choisit ses patients? Est-ce qu'il accepte ou refuse un tel ou un tel en disant oui, je veux bien vous suivre, ou, je sais pas c'est quelle expression, vous soignez, et par contre, vous, ça va pas être possible.
Un psy ne choisit pas ses patients, mais un psy peut dire, là, je crois que je peux, la phrase qui revient en leitmotiv, on est là pour vous aider, c'est l'histoire de la bienveillance, un psy peut dire, là, je crois que je peux pas. Alors, je peux pas pourquoi? Je peux pas parce que j'ai pas les compétences techniques dont j'ai besoin, j'ai pas la méthode, mais aussi, je peux pas aussi parce que...
Vous n'avez pas d'argent.
Alors là, c'est un de mes grands combats. Je trouve absolument scandaleux qu'il faille beaucoup d'argent pour faire une psychothérapie. Et s'il y avait un message à dire, dans la mesure où la psychothérapie, c'est quelque chose qui aide beaucoup, il faudrait qu'on puisse offrir les psychothérapies à des gens qui n'ont pas d'argent. Et ça, c'est parce que c'est efficace et parce que c'est important.
Et dans le film, ce qui est, je trouve douloureux, c'est quand le personnage de Virginie Efira décide d'arrêter d'être psy. Ça veut dire qu'elle abandonne, d'une certaine façon, tous ses patients.
Il y a un mec qui est désespéré, il y a l'un des patients, c'est génial.
Parce qu'on connaît la difficulté de trouver le praticien qui nous correspond.
Je vous ai donné ma vie et vous m'abandonnez.
Voilà. Ouais. Trouver le praticien qui nous correspond le mieux, c'est hyper difficile. Il faut souvent passer plein de rendez-vous avec différentes personnes pour trouver quelqu'un avec qui ça peut matcher. Ça, parfois, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Se faire abandonner... Moi, je vois très bien l'expérience, mais c'est comme une rupture amoureuse, quelque part. Il y a une sorte de douleur terrible. On est laissé sur le bord de la route. La personne qu'on voit toutes les semaines, c'est fini.
C'est vrai que c'est une grande responsabilité d'être psy. Mais en même temps, quand on sent qu'il faut qu'on arrête, il vaut mieux arrêter.
Et pourquoi on arrête souvent ? Pourquoi ils arrêtent les psys ?
Soit parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus... il faut une envie quand même forte pour être psy. Il faut une envie, il faut s'engager, c'est une responsabilité, c'est un plaisir immense aussi, parce que c'est une aventure partagée à l'autre. Vous imaginez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous offre ce que j'appelle son passeport pour l'intime. C'est quand même pas rien, cette histoire-là.
Ouais, c'est un poids. Et alors, est-ce que le psy peut décider pour le patient ? C'est aussi l'un des moments forts du film, quand le patient dit « Vous feriez quoi à ma place ?» ou « Qu'est-ce que je dois faire ?»
Vous savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et depuis qu'on a posé la question du consentement. Le consentement, c'est quelque chose de fondamental. Que l'autre ne me fasse pas quelque chose que je ne veuille pas ou que je ne puisse pas assumer. Et cette notion de consentement qui va vers l'autonomie et la liberté, qui est tout le travail qu'on veut faire au cours d'une vie, c'est à récupérer sa liberté et savoir qui je suis. Alors, savoir qui je suis, c'est terrible. Et Pindare nous donne la solution. Savoir qui je suis quand tu l'auras appris. C'est la phrase complète de Pindare. Elle est formidable. Et donc, effectivement, le psy ne doit pas prendre la place de l'autre. Il doit garder cette distance. Il doit prendre une décision pour l'autre. Mais c'est cette notion de consentement et de décision.
Non, mais il doit prendre la décision pour l'autre, vous dites.
Il ne doit pas prendre la décision pour l'autre.
Ah,
non, excusez-moi, Nagui.
D'accord.
Non, il ne doit pas prendre la décision pour l'autre. Il doit l'aider à cheminer à côté pour qu'il puisse prendre la décision dont il est en capacité éventuellement d'assumer.
Et la phrase, c'est savoir qui je suis quand je l'aurai appris.
Quand tu l'auras appris.
Quand tu l'auras appris.
Deviens qui tu es quand tu l'auras appris. Okay. Ce qui est toute la dimension de la vie et de l'existence, finalement.
Parce que
on n'arrête pas d'apprendre.
Le travail du psy, c'est que le patient donne lui-même les réponses aux questions qu'il se pose.
Le mystère du psy, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui vient en thérapie, en analyse...
Trouve les réponses en toi.
Veut trouver les réponses dans l'autre. Et le psy sait que ce cheminement qui va se faire à deux, c'est vraiment une co-construction. D'ailleurs, l'image la plus magnifique, c'est avec le petit enfant. Votre moment de psychanalyse avec ce petit garçon.
Qui joue au Monopoly.
Qui joue au Monopoly. Ça, je dirais, c'est là, on a vraiment une séance où il vous montre des choses. C'est-à-dire que vous en apprenez autant que lui nous apprend.
Oui.
Et donc, pour répondre à votre question, Nagui, effectivement, l'autre va trouver en lui, on va l'amener un petit peu à trouver en lui la solution, même s'il ne le sait pas, et c'est un cheminement pour ça. C'est pour ça que c'est quelque chose de très particulier, de très singulier.
Merci beaucoup Pierre Canoui, d'être venu à ce micro. En plus, Cannes, oui, pour quelqu'un qui va présenter un film au festival, c'est quand même formidable. Non, on l'a pas fait.
Ah oui,
allez, ça c'est fait.
Au bout de trois...
président de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse.
Président d'honneur.
Président d'honneur.
Je l'ai été.
Mazette. Très bien. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Les jeunes veulent un homme à poigne au pouvoir en France.
Oui, alors attention, pas tous les jeunes. Certains écoutent France Inter et restent persuadés que la social-démocratie a un avenir. Ils s'endorment en comptant l'Emmanuel Valls en train de sauter par-dessus la mairie de Barcelone. Mais de plus en plus de jeunes, d'après un sondage, verraient même bien un militaire à l'Elysée avec des grosses bottes et un slip qui sent, Nagui.
Non.
Mais si.
Postulant, Nagui.
Non, mais quelle horreur. La bande originale avec Léna Gadeau-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin. Albert Ajoux. Guillermo Guillemin, Tanguy Passureau et notre invité Virginie Efira. Virginie Fira dans Sibyl, ce film qui raconte l'histoire d'une psy qui elle-même suit une analyse, mais qui était avant d'être psy romancière et qui veut se remettre à l'écriture, mais qui manque d'inspiration. Et d'un coup, elle accepte une patiente alors qu'elle est en train de virer tout le monde de son carnet de rendez-vous. Elle accepte une patiente jouée par Adèle Exarchopoulos, qui est juste aussi géniale que vous. Et c'est pas peu dire dans ce film, former un très joli duo en une d'ailleurs des Un Rock. Très belle photo aussi que vous êtes en couverture toutes les deux des Un Rock. Vous avez pas vu?
Si, j'ai vu, là, justement, je regardais, on m'envoie des petits SMS pour les articles que je
lis. Ah non, puis le papier dedans,
il est bien
à Edith Yarambique, ouais.
Okay.
Avec aussi une interview de votre réalisatrice, Justine Trier. Ce film, donc, raconte cette histoire de cette auteure, de cette psy, qui va totalement s'identifier, vraiment un renvoi de miroir, presque de jumélité, puisque le mot est employé par Justine Trier dans cette interview, où il va y avoir une identification de l'une vis-à-vis de l'autre. Elle est enceinte et elle lui dit « Qu'est-ce que je dois faire, chère psy ?» Elle va non seulement la conseiller, mais la diriger, dans tous les sens du terme, sur le tournage d'un film. Il y a aussi cette mise en abîme autour du cinéma. Et comme vous l'avez dit, ce qu'il y a de plus fort, c'est la passion. C'est peut-être même le moteur de tout le film, hein, la passion.
Oui, c'est une histoire d'amour dont elle n'arrive pas à se défaire et qui voyage en elle encore de manière très très forte. Il y a ça, et puis ce qui rejoindrait un peu tous les thèmes, c'est aussi, et certainement celui de la psychanalyse, c'est aussi d'où on vient, l'endroit de l'origine, de ce qu'on travaille avec nous, le pulsionnel, l'inconscient, cette chose-là, les origines. Et qu'est-ce qu'on en fait, comment on arrive à s'en défaire ou à les incorporer pour finalement, et ça c'est un peu le cas de tous, pour en faire quelque chose, pour là écrire un roman, pour faire un geste artistique ou pour dans l'idée de la transmission et de l'enfant, quoi.
Mais le passé, c'est un bagage, c'est un fardeau ou c'est un tri à faire justement avec ce qu'on a vécu ?
Ben, y a une phrase, comme ça, tirée du contexte, elle va pas être super poétique, mais à l'intérieur, elle est bien, où à un moment, ma patiente me dit « mais on construit pas sur de la merde ».
Ouais.
Et je lui dis « on construit que sur de la merde ». Donc, c'est, en tout cas, on sait bien qu'on peut pas nier cette chose-là, on peut pas juste la fuir, elle fait partie de nous, quoi. Et qu'il faut bien la prendre par la main, pas se mettre à l'aimer complètement, mais faire corps avec aussi, quelque part.
Film formidable, Sibyl, sorti en même temps qu'il sera projeté au Festivalier, qui est en compétition, donc on attend plein de choses comme résultat.
Au moins une palme, hein, je dirais.
Oui. Oui.
Peu importe la couleur, mais une palme.
On va pas se déplacer pour rien.
Écoutez,
un prix d'interprétation.
Si on peut avoir les deux.
Un prix d'interprétation. Sibyl de Justine Drier avec Virginie Fira qui est notre invitée. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, la démocratie, c'est quand même formidable.
Oui, c'est super, on peut dire ce qu'on veut. Là, par exemple, je peux me lâcher, balancer sur tout le monde. Bon, à part les musulmans, les juifs, les handicapés, les gays, les transgenres, les gros, les roux, les bègues, parce que le temps qu'ils vous clashent à leur tour, vous êtes déjà partis. Les anorexiques, Benoît Hamon, parce que c'est trop facile. Les asiatiques, les noirs, les vieux, les femmes et Mahomet, quand on a encore 15 ans de crédit, sur son appart. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais à part ça, on peut rire de tout, comme par exemple de la vie de couple, hein, ou des différents types de poussettes dispo quand on devient maman, parce que le papa n'est pas concerné. Moi, 3 ans de poussette, j'ai jamais réussi à la déplier. À chaque fois que j'ai voulu déplacer mon fils, j'ai fini par lui commander un Uber. À 2 mois et demi, le petit écoutait RMC Info, j'ai bousillé sa vie. Bref, la démocratie, c'est pas mal. Sauf que la nôtre est moins vivace qu'un moustique qui aurait choisi pour s'alimenter en sang le bras d'Abdelaziz Bouteflika. Par exemple, le RIC proposé par les Gilets jaunes, ce mouvement atroce qui a généré le comeback de Francis Lalanne. Eh ben, c'est une bonne idée. Le peuple pourrait être consulté à intervalles réguliers, comme en Suisse. Hein, on demande aux gens de choisir. Êtes-vous pour ou contre le SMIC à 16 000 euros? Ou les minarets des mosquées, si on les fait en or massif, est-ce que ça passe? Enfin, le peuple est consulté. Chez nous, ça ferait en sorte qu'on ne serait pas tous les 5 ans à attendre la présidentielle, alors que ne se présentent que des branques. Hein, Macron, Le Pen, Mélenchon, ça faisait pas rêver. Sauf les gosses qui se demandaient ce que foutaient Oui Oui et Heidi avec le sosie de Grumpy Cat. Les Français sont donc déçus par la démocratie et s'en éloignent comme avant ils l'ont fait avec les pins parlants d'Alexandre Debanne. Ainsi, un sondage de ce week-end nous apprenait que les jeunes notamment, ces gens qui sont comme nous sauf qu'ils n'ont pas encore contracté de convention obsèque, ont une désillusion totale par rapport à la démocratie comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un monsieur qu'on envoie dans un château pour 5 ans et qui est à deux doigts de se balader en perruque poudrée tellement il se prend pour Louis XIV. 75% des jeunes aimeraient par exemple que ce soit les citoyens qui décident ensemble de ce qui est bon pour le pays. Alors, je spère pas tous les citoyens, ouais. Parce que je refuse de confier mon avenir à Ariel Dombal, Mathieu Delormeau ou Fabrice Lucchini. Le temps qui cause lui, ça va être aussi long que les conseils des ministres. 48% des jeunes estiment aussi qu'il faudrait que seuls les citoyens ayant un niveau de connaissance suffisant puissent voter. Et c'est vrai qu'avant chaque élection, je prie pour que les ch'tis à Cancun soient restés bloqués à Cancun. Je me dis, ils vont pas savoir faire. Déjà l'isoloir, ils vont se foutre à poil dedans pensant que derrière, il y a un shooting photo un peu hot. On va leur présenter l'assesseur, ils vont répondre impossible, je suis fils unique. Enfin, ça va être tout un boxon. Alors, après Nagui, comment faire dans le bureau de vote pour contrôler le niveau de connaissance de chacun? Je ne sais pas. Hein, peut-être vous foutez-vous à l'entrée avec un questionnaire sur la mythologie grecque, hein, duo, carré ou cache. Je vais prendre carré, Nagui. Quoi, carré? Mais t'es une brêle, Hortense, tu dégages. Hein, je vois que ça, je ne sais pas comment
vous
faire.
Me dites que ce sondage nous apprend aussi que les jeunes souhaitent un pouvoir fort.
Oui, 38% des jeunes aimeraient avoir au pouvoir, je cite, un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Donc on va traduire, ça s'appelle un dictateur. Hein, si demain Bachar al-Assad déboule à l'ONU en disant non, je suis juste un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections, on va pas lui répondre ouf, on avait cru que t'étais un tyran, on s'est planté. Tu prends quoi, Fanta, Ginto, Cacolac, mon pote? Interrogée par le Parisien, Blandine, étudiante à Orléans, dit on a besoin de plus de poigne au pouvoir. Un militaire, on lui obéit. Avec Macron, tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que Macron, bon, il est là, tout frêle dans son petit costard. Quand il veut manger un bounty, Brigitte lui tend une endive parce que c'est meilleur pour sa santé. Alors qu'un bon général putschiste, nourri à la côte de porc, un bien poilu, qui a la gueule de 4h à 22h et peut tout poser sur la table devant Merkel qui convulse, bah ça aurait de la gueule. Hein, Jovan, 18 ans, toujours dans le Parisien, explique qu'il verrait bien un Poutine à l'Elysée.
Non.
Si on avait un Poutine, dit-il, la France taperait du poing, on redeviendrait leader. Alors bon, pour redevenir leader, il faudrait aussi que la Chine n'existe pas, que l'Inde arrête de se développer et que les États-Unis disparaissent. Mais enfin bon, l'idée est là. Les jeunes veulent un type qui en a. Martine Aubry en mec. Quelqu'un, on lui dit, je suis pas d'ec. On n'a pas le temps de finir la phrase. Il vous a décapité juste avec les deux dents de devant en expliquant qu'il garde les molaires pour les autres. Et c'est vrai que la dictature, notamment militaire, parce que ces gens sont très ordonnés, hein, ils vous refont un lit dans la jungle en fermant les yeux. Bah, c'est plus efficace que la démocratie. Nous, on a un gouvernement, un parlement qui ratifie, le Sénat, le Conseil d'État qui retoque tout, et à la fin, Conseil constitutionnel qui dit que dans la ligne 3 de la loi 27B, il y a un point virgule qui manque. Comment il fait Kim Jong-un? Eh ben, le matin, il se lève, il dit, j'ai faim, quatre généraux notent, disent aux paysans, on va vous prendre toutes vos céréales parce que Jong-un a très envie de choc à pic. Un quart d'heure plus tard, le petit-déj est servi. Voilà. Hein, mais enfin, bon, rassurons-nous, si on continue comme ça, on va l'avoir, notre Poutine. Enfin, ça avancera un peu. Ouais, yes.
Merci, Tanguy Bastiaud.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et Tanguy sera le 6 septembre au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.
Sibylle, jouée, portée, incarnée par Virginie Efira, c'est l'histoire de cette femme, ce sont les amours et les passions tumultueuses de cette femme, avec des scènes qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, explicites, chaudes, érotiques. Est-ce que c'était plus facile parce que c'était Justine qui vous les demandait parce que vous avez confiance en elle? Est-ce que c'était plus facile parce que c'était Nils Schneider qui est votre compagnon dans la vie?
C'était plus facile parce qu'on sont des scènes qui m'intéressent au cinéma, déjà, parce que ça m'intéresse. Parce que je trouve fou qu'une chose aussi...
basique que faire l'amour soit...
J'allais dire plutôt essentielle, mais ouais. Basique ouais. Aussi, ça va. Non, mais que du coup, ça raconte quelque chose. C'est pas l'idée du coït qui est intéressante, c'est que c'est... Enfin, quoique, mais c'est surtout ce que ça raconte derrière. C'est quoi l'intime? Et l'intime, c'est pas que... Ah, tu sais, moi j'adore le camembert. Ah, ben moi aussi, c'est fou, on était... Voilà, ou... je veux dire... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais...
Ouais. Non, par la façon psy, dont on fait l'amour, c'est
non,
pas
mais
anodin,
non, mais
quoi.
Parfois, oui, mais non...
très limitative, vous m'aidez, c'est gentil.
Mais non, c'est pas genre, on a des passions communes, du coup on s'aime, il y a plein de manières de raconter des choses, et c'est aussi de l'ordre de l'intime, de quelque chose d'inconscient. Mmh. On a parlé de la psychanalyse tout à l'heure, et dans la rencontre physique, il y a cette chose-là aussi, et comment on la filme, comment on la montre. Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai eu la chance de faire ça avec Justine, qui s'y intéressait, puis après j'ai tourné avec Verhoeven, donc c'est quand même c'est un sujet pour lui. Et donc,
vous êtes lesbienne dans le Verhoeven?
Oui, c'est ça.
D'accord. Mais le fait de, encore une fois, ces scènes, il y a la manière de les filmer, et je pense quand même, je suis pas comédien, mais je pense que le ou comédienne encore moins, je pense que être avec son partenaire, son partenaire dans la vie, ça doit être plus confortable parce qu'il n'y a pas la gêne, parce qu'on se pose pas les questions.
Quand même, c'est
gênant.
C'est un peu gênant. Bah oui, en fait, il faut se défaire de. C'est très spécial la pudeur. Il faut se défaire de quelque chose. Justement, ça pourrait faire très impudique. Mais Niels me disait justement un truc que je trouve très juste, que la sexualité au cinéma documente beaucoup plus sur la sexualité du metteur en scène que sur celle des acteurs. Après, vu que c'était le choix de Justine et qu'on soit ensemble, c'était aussi de se dire, tiens, comment on peut profiter, je ne sais pas si le mot est très juste, mais de ça pour se défaire des égards que parfois un acteur peut avoir avec, dans ces scènes-là. Où c'est très compliqué. Souvent, moi, j'ai besoin que le réalisateur dise des choses parce qu'on n'a pas envie d'enfreindre quelque chose qui n'irait pas pour
comme,
l'autre.
Comme, et tout vous ça. Dirigez, comme vous dirigez la scène d'amour, justement, entre Gaspard Ulliel et Adèle Exarchopoulos, quand vous redevenez réalisatrice dans le film. Le fait d'en être au deuxième film, après Victoria avec Justine, vous a là aussi poussé dans toutes les scènes, dans tout le jeu, à aller plus loin, à être beaucoup plus en confiance, à moins, vous disiez tout à l'heure, on était plus direct, moins prendre de gants peut-être, elle vous dirigeait en
oui,
sachant exactement...
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Justine, c'était... Bon, j'ai eu un coup de foudre pour elle, puis c'est quelqu'un qui est devenu assez essentiel dans ma vie, et tout de suite on s'est mis à travailler ensemble, ça c'est très joyeux de rencontrer quelqu'un, et puis tout de suite d'être dans cette espèce d'excitation de fabriquer quelque chose ensemble. Après on s'est retrouvé un peu dépourvu quand le tournage s'est terminé, mais en fait on avait...
Vous parlez
en fait,
de Victoria.
De Victoria. D'accord. Quand je l'ai rencontrée il y a 2 ans ou 3 ans, je m'en rappelle plus. Mais après, on a continué à avoir un lien très très fort.
Est-ce que c'est vrai que le rôle a été écrit pour vous et que ensuite vous avez casté entre guillemets Adèle Exarchopoulos?
Oui,
c'est
je pense pas que Justine s'était dit au départ, ah, je vais absolument refaire un film avec moi, mais peut-être qu'il y avait un sentiment d'inachevé peut-être après Victoria. Et donc quand elle a écrit, elle me l'a proposé, on savait pas qui allait jouer Margot et Adèle est arrivée dans
comme une évidence ou vous avez vu d'autres
comédiennes. Elle était démente au casting, elle était très drôle quoi.
Donc il y a eu un casting, il y a eu d'autres comédiennes qui sont passées.
Ouais.
D'accord. Mm-hmm. Et là vous jouiez ensemble, vous étiez là au casting, c'est-à-dire vous donniez la réplique à l'autre comédienne.
Ouais.
Et c'est vous qui avez choisi Adèle ?
Non, moi je peux pas me permettre de choisir. Alors, effectivement, quand on est là, on va peut-être donner son sentiment.
Ouais.
Mais en général, il se voit déjà dans une complicité et tout ça. Mais il y avait d'autres actrices qui étaient démentes aussi. Donc c'est vraiment ce que Justine veut raconter, quoi. Parce que c'est pas une question de qui est bon, qui est pas bon. C'est qu'est-ce qui se passe ensemble, qu'est-ce que ça, une présence raconte par rapport à une autre. Mais il y avait chez Adèle une chose vraiment très jolie, c'est qu'elle avait vraiment hyper envie. Et dans le film, il y a un moment où elle doit, comme elle est actrice, on la voit crier avant de faire une scène. Et c'est une chose qu'Adèle a fait pendant le casting. Où elle était là, et puis tout d'un coup, elle devait quand même jouer des choses d'un état physique vaguement épileptique, en tout cas très 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 encombré, très quelqu'un qui va vraiment
troublé,
pas bien.
Oui.
Et pour relâcher quelque chose, elle s'est mise à hurler, mais c'est assez impressionnant à voir. Elle m'a crié très très fort. Et c'est bien parce que du coup, son corps était déjà un peu secoué, quoi, et de faire suivre les choses.
Et ça fonctionne en tout cas, votre duo Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos. Ça se passe ce vendredi au cinéma, ça s'appelle Sibylle, on vous encourage à le voir. Autant il y a eu sélection, casting, choix autour de cette table dans cette bande originale, sauf pour lui, il était déjà autour de la table et déjà installé, et il y restera longtemps. Daniel Morin.
Des fois, la télé, c'est bien. Et ce soir, ça va être super bien. Ce sera sur M6 à 21h avec Dossier Tabou, présenté par Bernard de la Villardière.
Oh là là.
Le thème, la fin de vie. Ce soir, sur M6 à 21h, ne manquez pas Dossier Tabou avec Bernard de la Villardière. Bonjour et bienvenue dans Dossier Tabou aujourd'hui. Droit de mourir, un tabou français. Peut-on mourir dans la dignité? A-t-on le droit de mourir dans la dignité? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de choisir le moment de sa mort? Autant de questions taboues auxquelles nous répondrons sans tabou. Est-ce que cette émission est motivée de façon opportuniste et dégueulasse par l'affaire Vincent Lambert? Oui, absolument. Est-ce que j'ai honte? Absolument pas. Pour quelle raison surfer sur la souffrance d'une famille qui se déchire avec au centre un homme qui végète entre la vie et la mort pour faire de l'audience? Voilà, aucun tabou avec Bernard, aucune retenue avec M6. La mort, la douleur, la maladie, oulala, vous allez en prendre plein les yeux à 21h sur M6. Bon ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, en même temps, on le connaît, le Bernard, il aime bien quand ça pue. Dans Enquête Exclusive, si c'est pas la prostitution, la drogue, les armes, la radicalisation, ça l'intéresse pas trop. Pour le coup,
Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il ait pas en lui la culture du best-of. Un mash-up de ses émissions avec un mix de ses meilleurs sujets. Oh, ce serait tellement bien. Ce soir, dans Tabou exclusif, un dossier explosif, sensible et inhumain. Nous irons à la rencontre de djihadistes transgenres qui prostituent des trafiquants d'armes en fin de vie. Une enquête où moi, Bernard de la Villardière, j'ai pris des risques énormes en me faisant passer pour un dealer de crack zoophile nécrophage syphilitique. J'ai passé de longues heures avec des terroristes dans le coma qui ne m'ont rien dit, mais qui n'en pensaient pas moins. Pour conclure, et ce sera la partie détente de Tabou exclusif, nous irons en Albanie visiter un marché d'esclaves destiné à la prostitution en Europe de l'Ouest. Un marché où ceux ou celles qui ne sont pas vendus à des proxénètes en fin de journée sont vendus au kilo à des bouchers. C'est ce soir dans Tabou exclusif. Tabou exclusif, la nouvelle émission choc de Bernard de la Villardière. Croyez-moi, c'est quelque chose. Quand c'est sale, quand c'est dégueu, quand c'est cracra, coucou, Bernard est là. Bon, j'exagère un peu, hein. Mais en tout cas, dossier tabou, le droit de mourir, c'est bien réel, c'est bien sur M6, c'est bien 21h, c'est bien gerbant. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne regardez pas. À demain.
Merci, Daniel. France Inter, la bande originale avec Nagui. Et dans Sibylle, il y a des musiques, j'adore la BO. Ouais. Roy Orbison, Nina Simone, Cass. On retrouve l'ambiance de Peggy Lee.
L'album, donc.
Et Nino Ferrer. Non, je n'oublierai jamais
la baie de Rio. Il y a cette chanson-là dans le film. La couleur ouais. du ciel. Le
nom du Corcovado. Et chante. Justine Trier dit vous avoir vu sur les marches à Cannes, montant ses marches dans une robe ou un bustier très glamour, et c'est de là qu'elle a eu envie de vous donner.
Non. C'est pas les marches, non, c'était dans la boîte de travesti.
Il y avait des marches. Ce soir, dans Tabou exclusif,
on est à Virginie, on est à l'antenne.
Mais alors donc, quand il y a eu la projection de Victoria à Cannes,
oui.
C'était vraiment très chouette. Il y avait mes parents qui étaient là, il y avait des amis, c'était une petite salle, c'était joyeux. Et après, on est allé, il y a une boîte de travestis hyper chouette, où j'étais avec mes parents et tout, à Cannes, ouais. Super.
D'accord.
Voilà, les gens étaient habillés, tout va bien. Et après, je crois que vers 5 heures du matin, j'ai dû partir, mais... je trouvais plus mes chaussures, quand même. Enfin, ah. Bref, et l'attaché de presse, Karine Durand, du film, a pris une photo. Et il est vrai que la photo est assez amusante. Il y a un air un peu perdu, mais en même temps...
Bon, mais en tenue de soirée.
Mais en tenue de soirée, les chaussures à la main. La photo est intéressante, elle raconte une histoire
et
quelque part.
C'est un peu ça. La scène où le film se finit.
C'est ça, ouais. Et c'était une image que Justine a remis dans le film, comme un visage effectivement qu'elle connaissait pas.
C'est bien que la boucle soit bouclée avec Anne, en tout cas, je trouve ça. Je trouve ça rigolo. Très drôle,
ouais.
Très très drôle. D'autres projets, vous avez tourné Police d'Anne Fontaine
avec Omar Sy
ouais. Et Grégory Gadebois.
Oui.
Là, vous êtes le personnage central du film, qui est.
Dans le film d'Anne Fontaine. Oui, au même titre que mes deux partenaires.
Vous êtes policière, c'est ça? Et vous êtes obligée d'accepter une mission, c'est reconduire à la frontière un étranger.
Exactement, ouais. C'était une mission pas prévue. Et puis, dans la voiture qui va les mener vers l'aéroport, elle va...
Qu'humainement, c'est pas possible, quoi.
Elle va ouvrir le dossier, elle va voir des choses. Sur l'idée de la conscience propre, quand il y a une sorte de chose indiquée professionnellement.
Vous savez que si vous le raccompagnez à l'aéroport, il va mourir, quoi. Et là, c'est la...
Qu'il y a de fortes chances,
c'est
oui.
C'est ça. Autre film, vous êtes en train de tourner, vous avez fini de tourner Adieu les cons.
C'est le film d'Albert Dupontel que je commence à tourner dans quelques semaines.
D'accord.
Ouais.
Donc ce film, il joue, Albert, il réalise le film.
Il joue et réalise, ouais.
D'accord. Ça parle de quoi?
Oh là, enchaînement d'histoire.
Vous avez une maladie incurable.
Ouais. Vous savez tout, quoi.
Il y a des communications qui sont faites. Hein.
Bon, vas-y, allez-y.
Vous partez à la recherche d'un enfant né sous X.
Ah, c'est ça l'histoire, d'accord, très bien. Parce que j'avais.
Ah, on a hâte de le voir.
Il n'est pas tourné encore.
Non, mais je rigole, bon, et vous avez tourné Benedetta.
Oui, oui, ça, j'ai tourné juste après le film de Justine. Ouais, où là, je joue une nonne lesbienne au Moyen-Âge, mystique, possédée par Jésus.
On embrasse Christine Boutin, si elle nous écoute.
Ah non, mais là, c'était un truc. Hein. C'était vraiment un truc. Et puis, ça, ouais, c'est un grand cinéaste et tout, mais c'était assez fou, quand même.
C'est impudique, c'est sexy, c'est... Parce que Verhoeven, il est sulfureux aussi.
Ah oui, c'est impudique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais. Ouais.
Ça sort quand, ça
on a hâte.
Non, mais c'est pas... En plus, l'idée de dépasser des limites, et c'est pas très intéressante, c'est fait partout et tout ça. Et puis... Mais c'est avec quel regard et tout. Et donc, lui, on sait qu'il va chercher des choses assez loin, puis s'interroge beaucoup, ce film-là. Là, sur de re-questionner le sacré, comment est-ce qu'on pourrait être proche de Dieu et jouir en même temps, enfin, est-ce que...
On en parlera avec Grégoire Delacour, ouais. et son roman Mon Père, qui est autour justement des prêtres pédophiles.
Oui, super transition. Voilà.
Non, mais il pose la question dans le livre, sur la jouissance de ceux qui sont dévoués à Dieu. Il pose cette question-là. Est-ce que tourner avec Lars von Trier, par exemple, vous ferez aussi vous donne envie ou pas, parce qu'il va loin aussi, lui.
Oui, mais enfin, c'est pas toujours l'idée d'aller loin. Enfin, d'aller loin, si, c'est de chercher quelque chose. C'est pas voilà. Bah, il a fait des grands films. Hein.
Oui.
Il a fait des grands films. Il a pas dit que des grandes phrases, mais il a fait des grands films, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Mmh. De quoi avez-vous envie?
D'un nouveau café.
C'est quoi cette imitation de Claude François?
Je sais pas. Tout va bien, vous êtes heureuse.
Bah ouais, je crois.
Ouais, épanoui, ça se voit, ça sent en tout cas.
Ouais, ça
sent et ça fait plaisir à voir. Mm. Des excuses à présenter d'ailleurs.
Oh, bien sûr, désolé déjà pour Virginie Efira qui s'attendait à venir parler cinéma d'auteur et du Festival de Cannes et qui s'est retrouvée à disserter sur les rillettes de thon, l'odeur des doudous, limite on se croirait sur M6. Désolé pour Virginie Efira encore. Alors j'ai eu Manu Macron à la pause et la Légion d'honneur, bah c'est pas pour demain. Alors, en même temps, pourquoi pas Nagui, chevalier de l'Ordre National du Mérite ou chevalier des Arts et des Lettres?
Ça c'est fait.
Ah, on me dit que c'est vrai. Si ça ne veut plus rien dire, alors la décoration, bah allons-y. Pourquoi pas chevalier de la prononciation pour Guillermo Guise pendant qu'on est. Non mais allons-y. Hein. Désolé enfin pour nos auditeurs fidèles et patriotes qui ont été quelque peu choqués et violentés même par les moqueries de Virginie Efira vis-à-vis de l'examen permettant d'acquérir notre si belle nationalité française. Ce pays qui, je le rappelle, a humilié la Belgique grâce aux soldats Oumtiti. Tout ça pour gagner la Coupe du Monde de football.
Merci Daniel, merci Virginie, bravo.
Merci à vous.
Bravo du fond
merci,
du cœur. Vraiment. Pour Sybille et Merde pour Cannes, le film sortira le vendredi 24 mai. En même temps qu'il passe à Cannes, vous pouvez aller le voir.
C'est presque dans deux jours.
Demain, nous parlerons sodomie avec Camille Cotin et Jeanne Herry. C'est pas qu'une vanne. Non, mais c'est vrai. C'est la première vanne de la série. Une nouvelle série sur Canal qui s'appelle Mouche. J'aime bien la tête de Virginie. Oui, c'est notre grand dossier demain. Quel racoleur, quelle merde cet animateur. Philippe Bertrand, bonjour.
Oui, bah t'as pas vu ma tête non plus. J'ai entendu ça. Bon, j'ai pris un aileron de requin ce matin au petit déjeuner. Génial.
C'est vrai, hein, c'est pas mal.
Ça booste.
Ouais.
C'est
pas, moi je suis végétarien.
Bon, à demain pour l'épreuve.